France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Alain Duo.
Elsa Bouglil.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche. Merveilleuse trille presque finale de Julie Fuchs sur cette air d'Elisa de l'orphanat Roussa de Pietro Raimondi. Pour vous accueillir, Alain Duo, grand spécialiste depuis quelques décennies déjà de l'opéra, on ne vous présente plus. Vous êtes l'auteur du dictionnaire amoureux de l'opéra chez Plon et plus récemment du dictionnaire intime de Roberto Alagna paru chez Le Passeur éditeur. Un ouvrage dans lequel votre ami Roberto Alagna se confie à vous et à vos lecteurs, du coup avec beaucoup de vérité, de profondeur et de tendresse, je trouve, comme si l'on découvrait l'homme, le vrai, derrière ce célèbre ténor qu'on ne présente plus non plus. Bonjour.
Bonjour Elsa Boublil.
Ce disque Mademoiselle fait partie de vos derniers coups de cœur. J'avais envie d'en passer un extrait pour vous accueillir, parce que Julie Fuchs, c'est elle qui vous passionne, c'est le disque.
Écoutez, Julie, j'ai eu la chance de l'entendre pour la première fois, vraiment, c'est tout début, et d'emblée j'ai été séduit par ce timbre très rond, qui a une coloration un peu lunaire, mais très rond, et une facilité de l'émission, et puis quelque chose d'une vibration intérieure qui me touche beaucoup. Vous savez, les voix peuvent être belles, mais ce qui est beau, c'est quand il y a cette espèce de légère fêlure qui fait qu'il y a de la vie à l'intérieur, et il y a ça chez Julie, et c'est pourquoi je l'aime, et j'aime beaucoup ce dernier disque, Mademoiselle, qui lui ressemble beaucoup.
Alors évidemment, Alain Duo, cette passion pour l'opéra, on est heureux de vous avoir avec nous pour un peu plus savoir d'où elle vient, comment elle est née, comment elle vous a suivi, comment vous l'avez poursuivi. On vous a entendu sur des radios concurrentes et néanmoins amies pendant de nombreuses années. Vous êtes toujours sur France 3 depuis 87, je l'apprends
toujours sur France 3, en effet. Je ne suis plus à aucune radio. Après avoir curieusement débuté à la radio chez vous, ici,
chez nous, hein,
à
France Musique. Ouais.
Je fais des émissions à France Culture et France Musique. Et puis ensuite, je suis parti dans une grande radio commerciale pendant 22 ans, RTL. Ensuite, pendant 6 ans à Radio Classique. Et j'ai quitté Radio Classique au mois de juin dernier. Et je vis maintenant ma vie simplement dans le bonheur de la musique et de l'écriture et des voyages.
On est content de vous avoir parmi nous ce matin jusqu'à midi et demi sur France Musique. Et puis vous êtes poète aussi, Alain Duhaut. Avant tout poète.
Elsa, je suis pas poète aussi, je suis d'abord poète.
Avant tout poète.
D'abord parce que, en fait, j'ai le sentiment d'avoir toujours vécu avec la poésie. Et je dirais que j'ai une double vie, ou une double vie qui se caractérise par deux jambes. J'ai la jambe du poète et la jambe du musicologue. Et les deux me permettent de vivre harmonieusement dans ce monde difficile.
L'harmonie, quand on parle de musique, c'est idéal. On est avec vous donc jusqu'à midi et demi sur France Musique. Et on va débuter avec, pour une fois, pas de l'opéra. Tiens, Beethoven.
Thank you.
Wilhelm Furtwängler avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin interprète cet éveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne de la symphonie numéro 6 en fa majeur opus 68 de Ludwig van Beethoven, dite symphonie pastorale. Pour commencer cette émission avec vous, Alain Duhaut, ça a tout de suite éveillé en vous un
éveil,
très vieux souvenir.
Ça ne me rajeunit pas, pour dire la vérité. Je peux vous dire, je m'en souviens très précisément. J'avais 8 ans. Je vivais donc dans un immeuble qui était à Massy, dans le sud de Paris. Et mes parents étaient abonnés à la Guilde du Disque. Je ne sais pas si ça existe encore.
On en parle souvent ici, oui, effectivement.
Ça a dû former beaucoup.
Oui.
Et donc, tous les 15 jours, on recevait un disque. Et le rituel était que le dimanche matin, on écoute le disque. Et je me souviens, c'était un disque... Il n'avait pas le format
33 tours.
Des grands 33 tours. Et je sais qu'il était tout gris. Il y avait une étiquette. Il y avait ce nom extrêmement compliqué de Wilhelm Furtwängler, mais ça m'avait frappé puisque je m'en suis rappelé tout le temps. Et puis, mon père met le disque et j'étais dans une sorte d'émerveillement. Et ça a été vraiment la première émotion musicale et je m'en suis toujours souvenu. Et vraiment, là, je me retrouve, j'avais 8 ans.
Est-ce que vous pouvez décrire l'émerveillement? Est-ce que c'est une sensation?
Oui.
Oui?
Oui, oui, c'est vraiment une sensation, l'émerveillement. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes là parce que c'est une espèce de rituel du dimanche. Et donc, on est assis. Je vois très bien, il y a le pick-up, comme on disait alors, l'électrophone, quoi. Et puis, on était assis dans le canapé, on écoutait avec ma maman, ma petite sœur et moi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on sortait de la pièce, qu'on était dans la nature. C'est là où on voit la force de Beethoven. Parce qu'il a réussi à donner ce sentiment de la nature palpable à l'oreille. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'avais la nature. C'est-à-dire, je me retrouvais chez mes grands-parents en Bretagne. J'avais les sons, j'avais tout ça. C'était absolument quelque chose qui est un sentiment qui est entré en moi par l'oreille.
Mais on le disait, Alain Duhaut, en écoutant cette interprétation, Furtwängler n'y est pas pour rien non plus.
Ah, vous avez raison. Ben ça, c'est la force de la Guilde du Disque, c'est qu'ils choisissaient des bons enregistrements. Philharmonie de Berlin, ça me disait rien à l'époque. Furtwängler non plus d'ailleurs, sinon je trouvais le nom très compliqué. Mais il est évident que la force de cette association, c'était de choisir les bons enregistrements qui pouvaient permettre, j'imagine, à beaucoup d'autres que moi, cet éveil musical qu'on cherche de toutes les manières et qui est essentiel. Vous savez, je veux dire une chose. J'ai été brièvement dans ma vie, quand je terminais une thèse de littérature, instituteur en cours préparatoire. Et je faisais une chose tous les matins. Je venais avec un disque. Je demandais à mes élèves de se mettre la tête dans les mains sur la table. Et pendant 5 minutes, on écoutait de la musique. Et je peux vous dire que ça produisait des choses. Ensuite, je leur disais, qu'est-ce que vous avez entendu, que vous avez ressenti? Ces éveils-là qu'on fait au début de la vie, c'est fondamental.
Mais c'est le principe de Musique et moi, qui est d'évoquer des souvenirs à travers des émotions musicales. Alors on va poursuivre, Alain Duhaut, au cours de cette émission. Bien sûr, beaucoup de dommages rendus à l'opéra, mais pas tout de suite. On continue avec du piano. Tamás Vasari, interprète ce nocturne numéro 7 en U dièse mineur, opus 27, numéro 1 de Frédéric Chopin. C'est un musicien que vous avez découvert en écoutant ce nocturne, Alain Duhaut,
ou... Mais oui, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que mes parents n'étaient pas du tout mélomanes. Non pas qu'ils s'intéressaient pas à la musique, mais ils n'avaient aucune formation musicale, et simplement ils m'ont fait écouter de la musique quand j'étais jeune à cause de la Guilde du Disque. Donc ils sont abonnés à la Guilde du Disque pour former leurs enfants, mais ils avaient rien de particulièrement mélomane, et il y avait pas de piano à la maison. Mais simplement quelqu'un, je ne peux plus vous dire qui, parce que je ne sais plus, mais j'avais 15-16 ans, m'a offert ce disque, un disque 33 tours, j'en vois très bien, Nocturne de Chopin, Tamás Vasari, qui évidemment je ne connaissais pas, et
c'était un peu le
même.
Hein.
Voilà, ça a été le même coup. J'ai eu une espèce de choc. Tout d'un coup, j'ai découvert un univers intérieur qui me touchait beaucoup. Vous savez, quand on a 15-16 ans, qu'on est dans l'adolescence, on a des émois intérieurs, on a des difficultés à vivre, et on a besoin de traduire ces moments où on se sent terriblement malheureux, ou terriblement mélancolique, ou seul, bien sûr, mais où tout est toujours terriblement. Et en fait, Chopin, il exprime ça, le terriblement. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai gardé ce disque, je l'ai gardé très, 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 très longtemps. Ensuite, quand il a été transféré en CD, je l'ai racheté en CD pour l'avoir toujours. Un jour, j'ai rencontré Tamás Vasari, qui était un tout petit bonhomme comme ça, c'était avant qu'il meure. Je lui ai dit, vous avez été pour moi, j'ai eu le sentiment qu'il comprenait pas très, très bien, mais ça me faisait du bien de lui dire. Enfin, c'était un beau souvenir.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alain Duhaut, qu'on ne présente plus, poète et musicologue, et l'invité de Musique et moi, donc ce matin sur France Musique. Et vous disiez donc qu'il n'y avait pas de piano chez vous. Est-ce que vous avez néanmoins appris la musique?
Oui, le piano après, mais pas chez moi. C'est que plus tard, j'ai eu, je commençais à être passionné de musique, à acheter des disques, à me ruiner. Vous savez, alors, il y a eu cette période, je vous disais, quand les années où j'ai été instituteur en cours préparatoire, donc j'ai gagné le salaire d'un instituteur, je travaillais pour écrire ma thèse et j'ai été passionné de musique. Et je vivais avec une jeune femme et je gagnais peu d'argent et je dépensais les trois quarts pour acheter des disques. Donc cette passion, elle était là d'emblée, mais elle n'était pas facile à vivre au début parce que bon, ça rien de naturel, vous voyez, complètement. Mais ensuite, je me suis dit, il faut que je fasse passer la musique par mon corps. Et donc, j'ai trouvé une professeure qui était une ancienne élève de Marguerite Long. C'était dans une ville du sud de Paris, s'appelait Bourg-la-Reine. Et j'ai péniblement appris la méthode Hannon, le Hannon, la méthode Rose. Je me souviens que j'ai commencé par travailler la cinquième danse espagnole de Granados et c'était vraiment compliqué.
Vous faites des gestes avec votre main.
Ouais, mais vous savez, bon, depuis j'ai un piano, j'ai eu la chance d'acheter quelques années un très beau Pleyel de 1913. Mais jamais je saurais jouer. Si je me donnais 10 secondes, je vous racontais une histoire. Un jour, j'avais invité à dîner Brigitte Angerer, immense pianiste, et l'après-midi, oh oui, j'avais travaillé la sonate dite au clair de lune de Beethoven. Et donc, vous savez, au début, ça commence par des arpèges, donc ça va, c'est très bien. Puis quand vous tournez la troisième page, ça devient plus compliqué. Et bon, bref. Et puis, j'avais fait deux, trois choses qui me satisfaisaient. Brigitte arrive, avant, quand je me prépare l'apéritif, elle se met au piano, il y a la partition, elle joue ça. Mais ça, la musique lui coulait des doigts, j'ai trouvé que c'était injuste, j'ai dit arrête, voilà.
Est-ce que c'est, en tout cas au cours de ces années d'achat compulsif, que vous avez découvert le Requiem de Verdi?
Non, c'était un cadeau encore une fois.
Ah ouais, les cadeaux ont fait emporter.
Ça forme.
produit par l'orchestre et le chœur Philharmonia, sous la direction de Carlo Maria Giulini. Là, c'est pour vous la plus belle version qui ait été jouée.
Écoutez, oui, ça, je peux vous dire, j'ai découvert cette version parce que pour mes 20 ans, un ami écrivain qui s'appelait Maurice Roche, qui était un romancier et qui est aussi celui qui a écrit le premier livre, non pas sur Verdi, mais sur Monteverdi en France, m'avait offert ce disque, ce qui est d'ailleurs curieux pour, quand on a 20 ans, nous offrir un requiem, mais bon, en même temps. Et ça a été ma découverte de l'art lyrique, car je n'écoutais que de la musique instrumentale. Et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de coup de foudre absolu, non seulement pour cet enregistrement, mais qui demeure le plus beau. Quand vous imaginez Elisabeth Schwarzkopf, Nikolai Gurov, Nikolai Gedda, Christa Ludwig, le Philharmonia et Giulini, depuis 50 ans, on n'a pas fait mieux. Et quand on entend ça, on se dit, voilà, on est dans les sommets. Mais ça a été pour moi un déclenchement formidable parce que, tout d'un coup, je dis, qui est ce Verdi, compositeur d'opéra? L'opéra, pour moi, c'était un truc de vieux, bourgeois, poudré. Enfin, c'était vraiment une image qui était totalement dépréciée. Et puis, tout d'un coup, j'ai des émotions exceptionnelles. Donc, j'ai demandé à Maurice, mais il a fait d'autres choses, oui, des opéras. J'ai commencé à acheter un opéra. Voilà.
Oui, et parce qu'en plus, ce requiem a quelque chose de très théâtral, vous disiez.
C'est un opéra. Les Italiens disent c'est un opéra de la mort. Mmh. Et vous savez qu'il a été créé dans une église. Mmh. Et la deuxième,
après, c'était à la Scala de Milan. Oui, donc,
c'est quand même. Mais cette dimension lyrique m'a vraiment emporté. Et ensuite, j'ai fait, si vous voulez, comme un saumon qui remonte la rivière. J'ai remonté la rivière Verdi et j'ai voulu tout acheter, tous les disques, tout savoir sur Verdi, et puis voilà. Et puis ensuite, je suis devenu passionné de Verdi. J'ai écrit des livres sur Verdi.
C'est Verdi qui vous a fait découvrir la Callas, Alain Duhaut?
Alors oui, d'une certaine manière, parce que elle a été quand même sur ce chemin, sans doute une des plus grandes initiatrices pour moi et pour beaucoup d'autres, pour Verdi, pour tout l'opéra italien en règle générale. Oh,
Un extrait de la Traviata de Verdi par Maria Callas. Alors, on est dans une perfection d'interprétation, en tout cas de fragilité, ça,
oui.
Ça traduit...
J'emploierai pas comme vous le mot perfection, oui. Elsa, parce que l'art de Callas, il n'est justement peut-être pas la perfection. Vous savez, à cette époque, il y avait la grande querelle entre Callas et Tebaldi. Tebaldi, il avait un chant comme ça, pur, parfait, tout des... L'art de Callas, c'est l'art de la vérité. C'est une vérité humaine. Là, on est au moment où Violetta sait qu'elle va mourir. Elle dit adieu à son passé. Elle a été forcée par des circonstances, je dirais, sociales, d'abandonner celui qu'elle aimait et qui pouvait la sauver. Et elle sait qu'elle va mourir et on doit entendre la mort dans sa voix. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait cette espèce de fêlure intérieure qui s'élargit, ce sentiment morbide qui peu à peu l'envahit. Et puis, voilà, ce destin dont elle sait qu'il va la briser. Ça, Callas l'avait, parce que Callas, toute sa vie, a vécu dans le malheur. C'est sans doute la femme la plus malheureuse qui ait vécu. Elle n'a vécu que 53 ans, mais elle n'a jamais été heureuse. Et elle a su endosser l'intériorité des personnages qu'elle chantait. C'est-à-dire, non seulement elle les chantait avec cet art extraordinaire, cette technique éblouissante, mais elle les incarnait au sens le plus fort. Elle était dans la chair de ces personnages. Et là, elle est vraiment dans la chair de Violetta qui va mourir. Et ça s'entend. Et c'est ça, l'émotion. L'émotion, c'est pas la perfection d'un bel objet. C'est justement quand quelque chose nous parle, parce qu'il nous parle de ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire des êtres qui sont pleins de fragilités. Et c'est justement le miroir de ces fragilités qu'on entend dans la voix de Callas.
Mais la perfection dans l'interprétation peut tout bien à fait sûr résider dans cette fragilité qu'elle arrive à traduire. Alors, Maria Callas est la muse, je crois, de votre premier livre, Coloratour, que vous avez publié.
Alors,
chez...
c'est mon premier livre de poèmes, de ça, poèmes effectivement, c'est ça, que j'ai publié chez Gallimard.
En 77.
77, ce qui ne nous rajeunit pas. Et effectivement, c'était un livre de poèmes sur les femmes et l'opéra. C'est deux sujets qui m'intéressaient beaucoup, qui m'intéressent toujours beaucoup. Et voilà, ça a été pour moi un livre un peu... décisif pour beaucoup de raisons, puisque j'ai été invité pour la première fois à la télévision.
Oui, c'est ça.
Dans une émission qui, à l'époque, apostrophe, c'est une émission considérable. Vous savez, je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas de portable. J'avais reçu, quelques jours avant, un télégramme. Et le télégraphiste avait lu le télégramme. Et il sonne, j'ouvre, il me dit, vous êtes invité chez Pivot. C'était comme si j'étais le pape. Et je dois dire que c'était très impressionnant, parce que j'étais jamais allé de ma vie à la télévision. C'était en direct, pour parler d'une chose aussi intime que la poésie. Et voilà.
Et ça vous a ouvert votre carrière médiatique.
Alors,
en fait.
Effectivement, ça a été le point de départ parce que j'ai dû être suffisamment convaincant puisque le lendemain, j'ai eu deux coups de téléphone, un d'une dame qui s'appelait Eliane Victor, qui dirigeait Elle,
oui,
qui m'a dit, je vous ai entendu hier parler d'opéra, mon jeune ami, je voudrais un critique, est-ce que vous voulez entrer à Elle? Et je suis entré à Elle et j'ai été pendant 10 ans critique musical de Elle. Et puis un autre qui s'appelait Jean-François Kahn, qui me dit, je vous ai entendu hier parler d'opéra, chez Pivot, c'était bien, voilà. Je reprends les nouvelles littéraires, est-ce que vous voulez venir? Et voilà, je suis entré aux nouvelles littéraires. Et ça a été donc un point de départ. C'est, au fond, ce livre de poèmes, Coloratur, qui a été le point de départ d'une carrière qui n'avait été pas destinée à ça. J'étais destiné à l'enseignement, voilà, j'étais prof, et puis... mais bon...
Et ça a pris un nouveau tournant.
Voilà.
Cheers.
Ruggero Raimondi et Teresa Berganza qui interprètent La ci darem la mano, l'acte 1, scène 3 de Don Giovanni de Mozart. Et vous l'avez reconnu tout de suite, Alain Dieu, vous avez dit mon rourou.
Ben oui, parce que, vous savez, j'ai une tendresse particulière pour Ruggero. Ruggero, c'est vraiment mon meilleur ami depuis très longtemps. On s'est rencontrés en 1974, ce qui quand même fait un bail. C'est le parrain de ma fille. Enfin, j'ai un lien étroit avec Ruggero, qui est un être extraordinaire. Bon, la voix, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Tout le monde sait que ça a été une des plus grandes voix de son époque.
Même si, puisqu'on est là pour parler aussi du rapport entre les émotions, la réalité, ce qu'on entend. On le disait en l'écoutant, il y a quelque chose de très clair en l'écoutant. Il paraît très généreux.
Oui. Mais cette générosité, vous avez raison, c'est une générosité qu'on entend dans la voix.
Oui, vocale.
Mais qui est celle du personnage. J'ai pu le vérifier à maintes reprises. C'est un personnage d'une générosité extraordinaire que la vie n'a pas épargné, mais qui a toujours réussi à infuser dans les personnages qu'il était amené à chanter quelque chose d'une vérité non seulement extérieure, mais intérieure. Il sait habiter la scène, et il sait habiter la scène autant avec son corps qu'avec sa voix. Et ça, c'est ce qui en fait un immense artiste. Et puis, c'est quelqu'un qui, discrètement, a toujours soutenu un certain nombre de causes. On ne le sait pas et je ne vais pas le révéler, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a une vraie générosité dans la vie et je l'aime vraiment tendrement. On a l'habitude de s'appeler mio fratello, mon frère. On a vraiment une vraie fraternité. Et voilà, je suis heureux qu'il soit là.
En vous écoutant parler avec autant de passion, d'intérêt, d'abord de ces personnages, de ces interprètes, je me demandais si on pouvait dresser une ligne, ou du moins faire un lien entre votre passion pour l'opéra et l'écriture, la poésie, ce jeu sur la langue, la musicalité, le rythme, il doit sans doute y avoir quelque chose là.
Vous savez, Elsa, c'est pas par hasard si le premier livre que je publie chez Gallimard s'appelle Colorature, qui est quand même un terme d'opéra. Donc, il est évident qu'il y a un lien et que la musique faufile, traverse, infuse l'écriture. Elle ne cherche pas à la mimer, car je pense qu'il y a deux arts qui sont différents, mais j'ai besoin de respirer la musique. Mais par exemple, je n'écris jamais, je ne peux pas écrire s'il y a de la musique, parce que la musique, je la respecte trop. C'est pourquoi je n'aime pas, si vous voulez, de temps en temps, ça arrive, je suis invité, j'ai des gens qui veulent m'être agréable, ils disent « Ah bah, on va mettre de la musique, on le dîner », ce qui est terrifiant. Alors j'essaye de dire que bah, peut-être que ça serait mieux qu'on s'entendrait. Mais parce que la musique, c'est la musique, l'écriture, c'est l'écriture, mais je me nourris de musique avant. Si vous voulez, par exemple, souvent, j'écris en allant dans un petit hôtel au bord de la mer. Le matin, je marche pendant 3 heures au bord de la mer pour entendre le rythme de la mer, parce que le rythme, c'est important, surtout quand on écrit de la poésie. Et puis, d'autres fois, je m'enferme chez moi, dans mon bureau, j'écoute de la musique, et quand c'est fini, je peux écrire. Ça nourrit.
Et par rapport à l'articulation, je pensais, bien sûr, à Roberto Alagna, qui est le roi en la matière.
Thank you.
Le duo Elisabeth et Carlo de Don Carlo de Verdi, interprété par Angela Gheorghiu et Roberto Alagna, avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. Et Alain Duo, vous disiez, quel génie! Alors j'avais envie de vous dire, mais de qui parlez-vous?
D'abord de Verdi, quand même, parce que c'est quand même génialement écrit, mais tous les deux, quand ils en étaient à ce moment, quand ils ont fait cet enregistrement, on sentait vraiment qu'ils s'aimaient réellement. Il y a de l'amour qui passe là. Alors il y a l'amour entre Carlo et Elisabetta, bien sûr, mais il y a l'amour entre Roberto et Angela, parce que bon, maintenant, Roberto aimerait pas que je dise ça, parce qu'il dit, mais en même temps, il avait une passion absolue pour Angela, et ça s'entend, et ça fait du bien, vous comprenez. Les artistes, ils ne sont vrais que quand ils, as interprètes, pas seulement avec les notes de la partition, mais avec ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que malgré l'intelligence artificielle, on pourra jamais avoir ça, vous voyez. On peut avoir la perfection réalisée avec des clones, des choses comme ça, mais cette espèce de mouvement intérieur, c'est étonnant, là. On a le sentiment que, voilà, le corps s'approche, qu'il la caresse, qu'il la touche, c'est bouleversant.
Et pour en revenir à votre passion pour Verdi, en disant quel génie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît le plus, peut-être, chez Verdi?
Ça, c'est vraiment...
C'est difficile, hein?
Ben oui, ça, il nous faudra 4-5 heures, non? Pour moi, il a véritablement donné la vérité théâtrale dans l'opéra. Et c'est pourquoi les grands interprètes de Verdi sont justement ceux qui ont su retrouver cela. On parlait de Callas tout à l'heure, ben justement, il y a cette vérité théâtrale. Auparavant, l'art était fait pour exprimer des beautés absolues, des équilibres, si vous voulez. Là, tout d'un coup... Il met l'humanité à l'intérieur de sa musique et c'est pourquoi il a touché le monde entier.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et vous, Alain Duo, vous avez mis l'humanité de Roberto Alagna à l'intérieur de votre plume et ça fait un ouvrage très fort parce que on découvre Roberto Alagna à travers ce dictionnaire intime. On a l'impression de le découvrir alors que celui qu'on a dans nos oreilles... On le connaît aussi un peu.
Vous avez raison, on le connaît, mais ce que je voulais montrer quand j'ai eu l'idée de ce livre, c'était celui qu'on connaissait pas. Vous savez, tout le monde voudrait aller dans les coulisses, dans les loges, pour voir la vérité des gens. Et au fond, ce que je voulais, puisque il se trouve que je connais depuis ses tout débuts Roberto, je sais beaucoup de choses de lui, et cette intimité me touche. Et c'est parce qu'il y a cette intimité qui me touche que je peux montrer... Pourquoi il s'est aussi touché par son chant avec cet élan extraordinaire, cette vérité? Parce qu'il est passé lui aussi, on parlait de Ruggiero, des gens, vous savez, qui ont eu des vies qui sont pas des vies toutes droites, et c'est le cas vraiment de Roberto, eh bien, ils nourrissent de cette vie ce qui fait leur art. Et c'est pour cela que, si vous prenez la plupart, que ça soit des chanteurs, des compositeurs, des peintres, songez à, je sais pas, Modigliani, la vie bouleversée qui a été la sienne, et puis ce qu'il a donné ensuite à l'art. Eh bien, cette vérité-là, je voulais la faire entendre. Mais c'était pas évident. Quand un jour, j'appelle Roberto, et je lui dis, écoute, on va faire un dictionnaire de toi. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais je dis, on va faire un dictionnaire intime. C'est-à-dire que tu vas dire tout ce que tu n'as jamais dit. Ben, jamais, je vais jamais te dire ça. Mmh. Je dis, bon, ça a pris du temps. Mais on a fait en 2 ans ce dictionnaire et il s'y est vraiment investi. Il a tout donné de lui et je l'en salue.
Et 2 très belles entrées, l'une sur Don Carlo, qui est vraiment magnifique, et l'autre aussi sur la Juive, ouais, de Halévy. Donc je propose qu'on en écoute un extrait.
Rachel, quand du Seigneur la grâce tu t'élèves, amen. J'avais à ton bonheur, vous
d'Éléazar de la Juive de Jacques Fromental à Lévis, interprété par Roberto Alagna avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Bertrand Billy. Et Alain Duo, c'est vrai que c'est presque difficile de parler derrière ce moment de grande émotion.
Ah, c'est vraiment la tragédie, là.
Oui.
La situation est quand même terrible. Ce père adoptif de Rachel, qui a effectivement, comme il le dit, la livre au bourreau, donc c'est un arrachement. Enfin, tout homme qui a une fille, c'est ce que c'est que ce lien-là. Mais la manière dont il vit, c'est vraiment une torche qui s'incendie de l'intérieur. Et là encore, c'est toute cette vie, justement, c'est cette intimité que j'ai voulu lui faire révéler dans ce livre, qu'il peut livrer aussi dans le chant. Parce que là, il est d'une vérité. Vous savez, parfois, il fait du cinéma, il peut être hableur, il peut jouer.
Il le reconnaît d'ailleurs dans votre dictionnaire.
Bien sûr. Mais au fond, sa vérité, c'est quand il est dans un air comme ça et qu'il dit le creux de lui-même, la douleur intérieure, au fond, ses plaies et qui tout d'un coup ressortent. Et c'est là qu'il est émouvant. C'est ce qu'on aime dans les grands artistes. C'est que, au-delà de ce qu'ils interprètent, eh bien, ils disent leur vérité intérieure.
Il en a conscience, Alain Duo?
Il en a partiellement conscience, si vous voulez. C'est un artiste d'instinct aussi, Roberto, comme était Callas. Et les artistes d'instinct, ils savent qu'il faut beaucoup travailler, l'un comme l'autre, travaillent comme des fous. Maria Callas, Jeanine Reyes, qui était son amie, sa dernière amie, sa professeure, m'a dit, on n'imagine pas comme elle travaillait. Et moi, j'ai vu travailler Roberto, on a passé parfois plusieurs jours ensemble. Il travaille de manière intense. Mais ce travail-là, c'est d'abord pour s'assurer d'être le meilleur, alors que c'était pas sûr, c'était pas gagné d'avance, et que il a toujours à se battre contre les autres. Vous savez, il est toujours en éveil, il y a d'autres ténors. Par exemple, Jonas Kaufmann, à la fois qu'il admire et en même temps il dit c'est abominable. Alors quand il m'entend parler à la radio, écrire des articles sur Jonas, aussitôt il m'appelle. Bah oui, ton Jonas, bien sûr. Bah ouais, bah, moi aussi j'ai fait ça.
Alors justement, Alain Duhaut, c'est intéressant parce que précisément vous qui êtes un homme, un poète, un artiste, donc aussi votre position à côté de ces grandes figures comme Roberto Alagna, on voit bien que c'est quelqu'un qui prend de la place. Comment l'amitié peut-elle se créer ?
Alors l'amitié, elle naît comme ça de l'admiration et elle perdure si il y a une vraie connivence. Cette connivence, elle n'existe que dans la vérité. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Ruggero chantait un air dont je pensais qu'il m'avait demandé à l'avance. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses si je faisais Zacharia de Nabucco. Je dis je pense que c'est pas idéal pour toi parce que c'est la voix est placée dans la quinte grave, un grave qui n'est pas le tien parce que c'est plutôt un baryton basse. Bref, puis 2 ans après il le chante et il m'appelle, il me dit est-ce que tu pourrais venir. Bon, je viens et il le chante mal. Et donc, à la fin du spectacle, bah, tout le monde va dans sa loge. « Oh, maître, jamais vous n'avez aussi bien chanté », ce que je pensais pas du tout. Et puis moi, j'attendais que tout le monde parte. Et quand tout le monde est parti, je ferme la porte. Et il me dit alors, je dis « Écoute, je peux pas dire que c'était bien. » Et il me dit, il part d'un grand éclat, « Tu peux dire que c'était à chier. » Parce qu'il l'avait lui-même ressenti. Et il m'a dit « Mais si tu m'avais dit que c'était bien, j'aurais pas pensé que tu étais mon ami. »
Oui, et c'est ça.
Il faut être vrai, il faut dire la vérité.
Et c'est cette vérité qui vous a permis sans doute de pouvoir écrire ce dictionnaire intime de Roberto Alagna, bien. Vraiment très sensible.
On s'est pas mal un peu heurté pendant l'écriture, parce que c'est quelqu'un d'entier, mais moi je suis quelqu'un de breton. Donc, vous voyez.
Donc, qui va droit au but aussi. Et c'est ce qui vous permet aussi, et je vous en remercie, de pouvoir programmer, par exemple, le Chevalier à la Rose de Strauss, et nous avouer que c'est une œuvre que vous avez mis du temps à apprécier. On va pouvoir
en parler. Exactement. Et pourtant, maintenant, qu'est-ce que je l'aime ?
Un extrait de Der Rosenkavalier de Richard Strauss, qui fait partie donc des œuvres Alain Duhau que vous avez appris à aimer avec le temps, comme un bon vin finalement.
Mmh.
Comment est-ce que c'est venu
et... c'est bien que vous disiez avec le temps, car c'est justement à cause du temps et du rapport au temps que j'ai d'abord entendu cette œuvre, puisque voilà, je suis toujours un peu boulimique et je veux tout entendre, mais je n'arrivais pas à être accroché par cette œuvre qui, au début, me paraissait fabriquée, presque artificielle, avec des beautés parfaites, équilibrées, mais dans laquelle je n'entrais pas. Et c'est une représentation à Munich, dirigé par n'importe qui, il faut dire, c'était Carlos Kleiber qui dirigeait. Il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que c'était Margaret Price qui chantait La Maréchale. Et j'ai été soudain happé par le grand monologue à la fin du premier acte, quand la Maréchale est devant son miroir et qu'elle comprend que le temps a passé. Son jeune amant Octavian, bien sûr, il est pétulant, et il lui dit qu'il l'aime, mais elle a compris que ça sera sans doute son dernier amant, qu'il va partir vers une autre, ça sera Sophie. Elle dit ces phrases, enfin ça c'est la poésie d'Offenstahl qui est là. Parfois je me relève la nuit et je voudrais arrêter les horloges pour que le temps ne passe pas. Et tout d'un coup, à la fois avec les mots et avec cette musique qui était suspendue, il faut dire que la direction de Kleiber était, comme on peut pas imaginer, chaque phrase tout d'un coup semblait au bord de mourir et renaissait en même temps. Et tout d'un coup, j'ai entendu la richesse harmonique qu'il y avait dans l'orchestration de Strauss, et tout ça m'a fait un bien fou, parce que quand je suis rentré à Paris, j'ai écouté évidemment la version avec Schwarzkopf, mais que j'avais déjà écouté et qui était peut-être presque trop parfaite. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'émotion. Au fond, la perfection de la version avec Schwarzkopf avait fait que je n'avais pas entendu l'émotion du personnage. Et là, j'ai appris à l'aimer, et maintenant, c'est vrai que j'aime passionnément le Chevalier Rose. Mais ça veut dire qu'il faut pas s'interdire de ne pas aimer des choses. Voilà, si on les aime pas, on les aime pas. Mais ça peut venir, heureusement. C'est la même chose dans les rencontres entre les gens. Il y a des gens qui se rencontrent, qui croient qu'ils ne... Voilà, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Souvenez-vous de Chopin et George Sand. Chopin rencontre George Sand, et il dit « Qu'est-ce que c'est que cette femme ?» D'ailleurs, c'est à peine une femme. Et elle écrit à son amie la comtesse Mariani « J'ai rencontré Chopin, c'est une petite chose, une sorte de soupir en escarpin. » Donc voilà, puis après, ils vivent un grand amour.
Et dans, ce rapport au temps que vous avez évoqué à l'instant à Alain Duhau, ça me renvoie aussi à une de vos deux phrases de chevet. On a signalé celle de Nietzsche, « Sans la musique, la vie serait une erreur » et on n'a même pas besoin de l'expliciter là depuis le temps qu'on vous écoute parler. En revanche, il y avait une autre phrase, c'est « Tout a passé si vite » et là, le rapport au temps donc, s'exprime encore une fois.
Oui, « Tout a passé si vite », alors c'est un extrait d'un vers d'un livre de poèmes que j'ai écrit, mais que j'aurais dit beaucoup. Vous savez, plus on avance en âge et plus on a le sens du temps, mais c'est de toute façon quelque chose qui m'obsède depuis très longtemps, même quand j'étais jeune. Parce que, au fond, c'est l'histoire de la complétude. On sait que plus le jour se lève, et plus il va se refermer. Il va se refermer, est-ce qu'il se lèvera le lendemain? Et au fond, je suis très obsédé par ce temps qui passe, et qui passe de plus en plus vite. Et quelles que soient les beautés du monde, eh bien, on sait que ce qu'on vient de vivre, on ne le reverra peut-être plus. Et c'est, au fond, ça qui fait qu'on écrit, qui fait qu'on aime, parce que quand on aime quelqu'un, on se raccroche à lui pour donner aussi un sens à sa propre vie dans le regard de l'autre. Et puis, qu'on aime aussi les beautés que nous offre la musique, l'art, parce qu'elles nous rendent encore vivants, même si tout continue à passer si vite et nous entraîne.
Un peu comme Robert Schumann quand il écrivait Humoresque, par exemple.
Oui.
Thank you.
Jean-Marc Luisada interprète ce Einfach de l'humoresque Opus 20 pour piano de Robert Schumann. C'est un extrait de son dernier enregistrement, Alain Duo. Et vous êtes un grand passionné de Schumann.
Je suis un grand passionné de Schumann et un grand passionné de Jean-Marc Luisada aussi,
ouais,
d'ailleurs,
ça tombe
parce
bien.
Que je trouve qu'il y a une vraie adéquation. Schumann, c'est un être brisé, qu'on le sait, il n'est pas mort fou par hasard. Il a été en permanence cabossé par la vie, et même quand il a pu vivre avec sa Clara, eh bien, ce bonheur était entaché du fait que elle était ce qu'il aurait voulu être, c'est-à-dire elle était la plus grande pianiste de son temps. Il a voulu être pianiste, il ne l'a pas été pour des tas de raisons, mais lui aussi, il a vécu dans quelque chose de douloureux, mais probablement que c'est cette douleur qui l'a amené à exprimer cette intériorité ombreuse qui est celle de sa musique, et que Jean-Marc traduit très très bien. Jean-Marc, c'est un être touchant, attachant, qui peut s'émerveiller. Je l'entends encore dire « Ah, c'est tellement beau, quelle beauté !» C'est vraiment une chose qu'il peut dire, et en même temps, tout d'un coup, tomber dans une mélancolie insondable quand son, je me souviens, il avait une passion pour son chien a été agressé et mort ensuite, et il pleurait, enfin, il y avait quelque chose d'une douleur extraordinaire, et ensuite, il a enregistré ce disque, et j'ai entendu, en entendant ce disque Schumann, quelque chose de la déploration et de la nostalgie de la mort de son chien. Donc, vous voyez, là encore, quelqu'un qui vit avec son propre corps, ses propres douleurs, sa propre histoire. Au fond, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pathos. Ce qu'il y a de temps en temps dans l'expression de la douleur, c'est qu'on la souligne au crayon rouge et on la surligne et on en fait un commerce. Tandis que la vraie expression de la douleur, elle doit être discrète, subtile. On doit l'entendre foufiler l'œuvre, mais non pas écraser l'œuvre. Et c'est ce qui fait les grands interprètes comme Jean-Marc.
Alain Duo, on va se quitter dans
déjà
quelques instants. Et oui, déjà. Donc, je vais rappeler le titre de votre ouvrage, Le dictionnaire intime de Roberto Alagna, paru chez Le Passeur éditeur. Et puis, on va se quitter sur quelque chose qui vous va bien, qui n'a pas du tout été la tonalité de l'émission. Et c'est pour ça que j'aime bien terminer avec ça. Une opérette d'Offenbach. Les Brigands.
Ah oui, avec ce texte extraordinaire, quasiment proustien, il y a des gens qui se disent espagnols, mais qui ne sont pas du tout espagnols. Nous sommes de vrais espagnols, ça nous distingue des faux espagnols. C'est quand même de la grande littérature. C'est le génie d'Offenbach.
Merci en tout cas d'être venu passer cette
heure
et demie en notre compagnie. Et puis à très bientôt sur France 3. Et puis il faut qu'on vous lise, parce que vraiment, ce dictionnaire intime nous fait découvrir Roberto Alagna
un grand monsieur
d'une autre façon.
Merci
à vous.
Qui ne sont pas d'Espagne, qui ne sont pas d'Espagne, qui ne sont pas d'Espagne. qui vous le dit, vous faire avoir de l'influence aux gens de votre ancien pays. Donnez-leur tout l'argent de tour et tous les emplois importants. Si les gens d'ici font l'amour, les gens d'abord seront contents. Les gens d'abord seront contents. Oh, y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont pas du tout espagnols. On ne ressemble de vrais espagnols et ça nous distingue des faux espagnols. Y a des gens, y a des gens, y a des gens, y a des gens, y a des gens.
Un extrait des Brigands de Jacques Offenbach pour terminer cette émission en compagnie d'Alain Duhaut qui a fait un karaoké sur ce dernier extrait. Merci beaucoup encore à vous.
Merci.
La fine et joyeuse équipe de cette émission aujourd'hui, c'était Philippe Mercher à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, Marie Ferdinand attachée de production. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h. D'ici là, vous pouvez consulter le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi pour consulter toutes les œuvres diffusées ce matin. Très belle semaine et à dimanche.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.